Je pense qu'on va peut-être de manière plus pratique écouter Nicolas une fois que tout sera mis en place. Donc je vais vous présenter Nicolas, qui est docteur en histoire des mondes modernes et contemporains, qui est auteur d'une thèse consacrée au cinéma de série B. Je crois que ça doit être la seule thèse au monde avec une photo d'Henri Tissot, je pense. D'Henri Tissot, pardon. Il a réalisé des interventions sur les thématiques du cinéma populaire, pornographique et du punk, et a collaboré au projet de livre sur Brigitte Lahaie. Tu confirmes ?
Avec un I, oui.
Avec un I, oui, puisque ce n'est pas de rapport familial. Depuis 2011, il est membre de la revue électronique Circé, fondée par les étudiants de l'histoire de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et tu es, pauvre de toi, professeur de français et de théâtre dans le secondaire.
Bonjour. Bonjour à tous. Je vais me présenter plus rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Comme l'a dit Christophe, à la base, je viens d'une recherche sur le cinéma d'exploitation. Et en fait, tout l'enjeu de cette année intense pour moi dans Peintre, ça a été de se dire comment je peux essayer de faire rentrer en conflit, ou en rencontre, mes thématiques de recherche de base et mon goût pour le punk. Parce qu'effectivement, dans les 4,5 interventions que j'ai faites cette année, voilà, moi j'ai vraiment distingué deux thématiques de base. D'abord, la question du punk, donc comment représente-t-on le punk, comment abuse-t-on de son image et la déforme-t-on. Mais ça, j'en parlerai aussi la semaine prochaine à ICI Les Moulineaux. Vous verrez des photos de films avec des punks mexicains et des coupes de cheveux complètement délirantes. Et aussi, donc, deuxième thématique, bien entendu, toujours le cinéma d'exploitation. Comment on se représente ce cinéma d'exploitation qu'on appelle cinéma de bis, de série B, de série Z, de nanar. Comment on en parle dans les discussions de passionnés et autres. Et aussi, donc, de quelle façon peut-être on le promeut dans la presse spécialisée. Moi, tel qu'on m'a demandé de faire cette intervention, moi je l'ai entendu de manière ultra, ultra, ultra simpliste. D'abord, je présente ce que j'ai fait et quelles thématiques fortes j'ai distinguées. Et ensuite, je présenterai sur quelles thématiques j'aimerais continuer à travailler ou me mettre à travailler afin, pas forcément, je dis, mais c'est aussi pour donner des idées à d'autres personnes qui voudraient collaborer avec moi ou aller sur ces sujets-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Premièrement, plus rapidement, donc l'historique des interventions que j'ai faites. Il y a eu donc une intervention sur les évocations de la banlieue dans les paroles de la souris déglinguée. On a d'ailleurs le principal auteur des paroles de la souris déglinguée dans la salle. Une modération... Christophe s'en souvient, de la table ronde réussir dans le punk. Une intervention au séminaire conclusif underground de l'HESS, où certains se souviennent peut-être de mes photos de salle, du plafond de la dernière salle porno de Paris. Et une modération intervention, donc sur la scène punk en Lorraine, je dis intervention parce que pour des raisons techniques, l'intervenante Louise Barrière n'ayant pas pu venir, donc j'ai dû assurer quelque chose que j'avais jamais fait, donc lire son intervention, et j'essaie de la préparer le mieux possible et de la rendre la plus dynamique, et ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup réfléchir. Donc dans toutes ces interventions, moi j'ai distingué forcément un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, différentes postures, différentes peut-être strates d'intervenants, sachant que je suis parti de base donc de la posture du passionné qui parle de ce qu'il aime ou de ce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué. Et c'est mon cas, je suis entré les premières fois, je crois, peut-être la première fois que j'ai vu Solveig à la miroiterie, je ne sais pas si c'était en sortant ou pas d'un entretien avec Michel, mais c'était vraiment, elle me parle de ça, et moi je me suis dit, mon seul moyen d'entrer, c'est La Souris Déglinguée, groupe que j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup trop de fois en concert. Et donc après, j'ai réussi à la diversifier. Il y a eu une autre posture qui m'a rappelé certaines choses que j'ai faites dans mes journées d'études, plutôt spécifiques cinéma, c'est la posture du modérateur. On ne modère pas de la même façon qu'on intervient, surtout quand on doit modérer des gens en tout bien tout honneur qui ne sont pas qui n'ont pas à respecter les codes universitaires d'attention etc. Je crois que c'était à Caen ou à Toulouse qu'il y ait des punks qui se sont mis à fumer dans la salle à Caen, voilà. Et donc vraiment on se pose la question, là on modère comment quand on a ces ces réactions plus ou moins, voilà, plus ou moins imprévisibles, ou quand on doit modérer par exemple des panels avec des non pas des spécialistes mais des gens qui ont vécu les choses et qui ressentent ça de manière vraiment charnelle. Voilà, je me souviens moi d'une journée d'études sur c'était il y a 6-8 ans sur la pornographie, où vraiment je faisais des descriptifs, des distinguos d'expériences, de témoignages de salles de cinéma, et j'avais 3-4 rats de cinémathèque en face de moi qui quand je parlais en gros, n'était pas vraiment en train d'interrompre, mais commentait à voix haute et se souvenait à voix haute de ça. Et c'est toujours particulier de gérer ça. Forcément, après, on arrive à cette posture, qu'on le veuille ou non, d'une posture de spécialiste. Et moi, je serais un spécialiste du cinéma d'exploitation, et j'ai essayé de faire rencontrer mes thématiques de recherche avec le punk. Et tout ceci, toutes ces différentes postures se mêlent dans une adaptabilité voulue, et parce que en modérant, en se forçant à sortir de sa zone de confort de recherche, on se remet vraiment à découvrir des thématiques pertinentes. Moi, je prends l'exemple de l'intervention que j'ai lue de Louise Barrière sur les festivals LGBT. Elle avait eu la gentillesse de nous mettre des images en plus pour agrémenter sa présentation. Et à un moment donné, moi, je me souviens d'une image, c'était un fanzine disponible dans une compilation dont le nom m'échappe. Et moi, j'avais aucune connaissance sur le sujet, et pourtant ça m'a fait réfléchir à une autre compilation que les plus vieux d'entre vous connaîtront peut-être, et que j'ai acheté moi, qui s'appelait Abat toutes les armées, et qui donc une compilation avec plein sur la compilation, il y a plein de chants contre le service militaire, etc., sur les sentiers de la guerre, de l'édic 2088 et autres. Et dans ce 33 tours, il y avait aussi donc un fanzine, un livret avec les paroles, bien entendu, mais avec plein d'adresses pour militer, etc., et un entretien avec un objecteur de conscience qui expliquait pourquoi moi j'ai pas voulu faire mon service militaire, etc. Et ce qu'il y avait dans le document, moi ça m'a parlé. J'ai forcément, au cours de cette année, ça m'a donné envie de vraiment dégager. J'ai trouvé des thématiques fortes qui se dégageaient. Et je dis thématiques fortes, on peut aussi parler d'obsession aussi. Et moi, les trois obsessions que j'ai vues dans ce que j'ai fait pendant cette année, c'est comment distinguer, surtout quand c'est une histoire de témoignages oraux, ou même écrit, comment distinguer la mythologie et réalité, c'est-à-dire quand on nous raconte une séance de cinéma particulièrement sauvage ou un concert particulièrement décadent, est-ce que ça s'est vraiment passé, ou est-ce que les personnes qui nous relaient ça ne sont pas en train de recomposer les choses. Un thème dans ce thème-là, mythologie et réalité, c'est comment analyser des concerts ou des séances de cinéma qui vont revêtir un aspect complètement œcuménique, c'est-à-dire là j'ai l'exemple des concerts de la souris, où effectivement où tous ces concerts là où le concert s'enforme en une sorte de karaoké géant avec un public qui connaît ultra par cœur le concert, et où c'est autant le groupe sur scène qui va nous porter que ce public autour de nous qui chante plus fort les chansons que le reste. Et le parallèle est pas fin avec donc certaines des séances. Quand je parle de séances de cinéma, je parle surtout des séances consacrées au nanar, au cinéma de série B. Il y a un mois, j'étais à la grande messe nanar de Les mauvais films sympathiques. Périphrase qui pourrait vous expliquer ce que c'est, les So Bad It's Good Movies. Et il y avait donc la grand-messe nanar au Grand Rex. Et donc, pour vous expliquer, de 20h à 8h du matin, on passe des mauvais films et on rigole après. Et on finit à 7h du mat par des bandes-annonces pornographiques et tout le monde rentre chez soi, tout le monde est content. Et y a certains extraits qui sont tellement cultes que le public les reprend, les reprend à voix haute. Et ça donne, ça donne une plus-value au spectacle qu'il faut quand même prendre en compte. Je passe donc sur le côté conflit entre concert rêvé, concert fantasmé et concert sublimé, et en me demandant aussi que dans ces deux terrains de recherche, que ce soit les salles de quartier ou les salles punk, pour nous, je vais prendre l'ensemble du projet, ben, il y a quand même une importance à accorder très forte au témoignage des publics, mais aussi à leur fragmentation, parce que pour plein de raisons, ces témoignages, on doit leur accorder une place, mais ils ne peuvent pas non plus constituer une plus-value proche de la perfection, que ce soit pour parler du avant, donc la grande époque des années 70-80, ou que ce soit pour parler, moi ça m'a fait penser quand Philippe a parlé des reformations, ou que ce soit quand certains groupes se reforment et que ben, des gens qui ont été partie prenante avant du phénomène n'en sont plus et éprouvent des sentiments tout à fait humains. Pardon, j'ai passé un peu plus vite. Et donc, dans ce que j'ai fait, et je pense dans ce qu'on a fait l'année dernière, il y a quand même une pluralité des terrains de recherche. Et moi, ce que je me proposerais de faire dans les années à venir, ou pas plus tard que la semaine prochaine, ce serait effectivement de se dire, à la fois continuer sur certains terrains de recherche que j'ai déjà, et essayer d'enrichir d'autres, particulièrement sur le punk et le cinéma, mais éventuellement, si Christophe, dans les questions, t'auras quelque chose à dire. Je pense que, vu qu'on colle, voilà, on a un projet tous les deux là-dessus. Et donc, un des premiers axes que moi, j'aimerais plutôt bien développer, ce serait, effectivement, là, c'est le côté professeur de français qui ressurgit, la question de écrire le punk, ou comment écrire le punk. Et moi, par rapport, là, je parlais de mon expérience de la souris déglinguée que j'ai vue, donc vraiment, j'ai compté avant de venir 20 fois en concert, et je compte pas les concerts solo de Ty Luke avec différents accompagnateurs. Et ça m'a fait rappeler, moi, qu'est-ce qui m'a fait forcer à aller voir la souris déglinguée autant de fois. Le goût pour toutes les ambiguïtés qui regroupent dans sa seule existence et qui symbolise pas mal d'ambiguïté de la scène, et aussi la question des choses qu'on n'a peut-être pas encore trop élaborées. Qu'est-ce que ça fait quand on va revoir plusieurs fois le même spectacle? Qu'est-ce que ça fait, des témoignages de Roddy ou autre, qu'est-ce que ça fait de voir 20 fois, etc., 20 fois le même concert, et en quoi chaque concert est particulier vis-à-vis du public, mais en quoi vis-à-vis du groupe, est-ce que ça peut être pas des choses qui se reproduisent? Et moi, quand au fur et à mesure que j'allais voir ce groupe-là, je me donnais des impératifs en me disant, ce concert-là, je vais le suivre dans le pogo. Ce concert-là, je vais le suivre au fond à droite de la salle pour voir les différences de perception. Alors, ça changeait aussi en fonction des lieux, etc., etc. Et je vais aussi m'intéresser plus particulièrement, par exemple, non pas au changement des setlists, parce que ça changeait peu, mais vraiment au changement des modalités de communication du groupe ou de Ty Luke avec le reste du public. J'ai des souvenirs d'un concert où il faisait très chaud à la Flèche d'Or, et j'ai souvenir, donc ils étaient encore avec Muso au saxo, et j'ai souvenir vraiment de Muso qui s'installe sur l'avant-scène, qui a des gouttes de sueur qui dégoulinent complètement, et qui se met à chanter, en regardant vraiment un par un certaines personnes qu'il avait reconnues dans le public, et vraiment avec une gestuelle de « je te vois, etc., c'est pour toi ». Il y a d'autres concerts où c'était pas le même genre de concert, par exemple, qu'au Magasin 4 à Bruxelles. Pour cette question d'écrire le punk, donc, il se poserait effectivement cette question de est-ce que ça reviendrait pour moi à faire une égo-histoire de mon rapport au punk. Autre aspect dans écrire le punk, il y aurait, on va parler de Lily Pnuck, parce que tu, dans un lointain message, tu m'avais éventuellement proposé qu'on fasse quelque chose dessus, donc je relance l'hameçon, hein, c'est toujours tout à fait possible, donc, et ça s'insère parfaitement dans la thématique écrire le punk. Donc, Lily Pnuck, c'est un fanzine qui s'appelle Lily Pnuck aujourd'hui, qui s'est appelé Lily Solo, et qui s'est appelé il y a 4-5 ans Lily Bazooka, et que j'ai très modestement fondé avec quelqu'un qui s'appelle Lily. Et moi, je suis parti très très vite parce que j'avais pas le temps, en fait, et que je comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc, voilà. Et Lily, en fait, j'ai essayé par exemple pour réussir dans le punk, j'avais essayé de la faire venir, et elle peut en parler sous format écrit, mais vraiment sous format face caméra, etc. Elle a plus de difficultés, et c'est quelque chose que j'aimerais faire. Samuel Etienne fait aussi ça, mais comme c'est quelque chose où j'ai partie prenante, Lily Pnuck, c'est un fanzine. Au départ, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est comment quelque chose qui se pense comme un objet artisanal, à l'ancienne, je reprends les mots de Lily, s'est développé de plein de façons et c'est devenu, alors je ne vais pas dire une sorte d'entreprise punk, mais Lily, ça lui a permis elle adore faire de la couture, elle a ouvert un shop Lily Pneuk où elle fait des sacs avec les Stranglers, etc. etc. Elle fait des vestes, inspiration Tom Sherman, etc. Et donc, tout ceci en se basant sur le fanzine. Et toujours en insistant, même s'il y a eu une semi-amélioration des techniques, des modalités de réalisation du fanzine, tout ceci en se basant sur une volonté artisanale. Et je trouve que dans la thématique écrire le punk, ce serait intéressant de pouvoir parler de Lily Pneuk. Il y a deuxième aspect, le punk à l'image. Donc ça, effectivement, Christophe, qui est avec moi sur le projet, pourrait aussi en parler, mais sur d'autres aspects. Effectivement, la question du... Il y a un projet dans lequel on est, dans le cadre de Peint, le projet d'une journée punk et cinéma. Et moi, pour l'instant, j'y réfléchis, et ça me fait réfléchir à plein de questionnements, que je vais développer en partie la semaine prochaine aussi, mais se demander... C'est quoi un film punk? Est-ce que c'est un film avec des punks? Est-ce que c'est un film dans des décors punks? Est-ce que c'est un film fait par des cinéastes punks, etc., etc.? Ou est-ce que c'est un film qui reprend certains détails, certaines citations de chansons punk, etc., etc.? Un corollaire avec cette journée d'études punk et cinéma se pose la question de l'apport des... Alors, il y a les punkophiles, les passionnés de punk qui sont effectivement évidents, les témoignages qui sont... cruciaux, mais aussi l'importance des cinéphiles pour parler des films sur le punk. Oui, je dis cinéphile, je pourrais dire cinéman ou cinéphage, c'est-à-dire vraiment les mordus maboules de cinéma qui pouvaient aller voir 2-3 films dans la même journée et qui pouvaient faire le lundi double programme porno, puis ensuite double programme d'aventure, boulevard de Clichy, etc. etc., etc. Et je trouve que pour moi, les cinéphiles sont extrêmement important parce que en tant que passionné, la plupart ils vont tout voir, ils vont si possible tout enregistrer, et il y a certaines personnes que j'ai commencé à démarcher pour la journée, je pense que ça peut être des gens vraiment très intéressants pour des recherches, etc., des gens qui numérisent, qui collectionnent les VHS, et à qui c'est très facile de dire, écoute, est-ce que tu peux me trouver tel film punk avec des dinosaures au début et avec des zombies au milieu, etc., et le gars dans sa base de données, ce serait, ouais, ok, j'ai ça. Et de la même façon, il y a des passionnés de cinéma qui sont aussi des passionnés de punk et donc qui forcément, dans leur passion du cinéma, vont être amenés à aller voir tel ou tel film. Je prends un exemple du patron de Metal, Bruno Thérieux, le patron de Metaluna, une des principales boutiques de cinéma de genre sur Paris, qui est aussi... qui pour lui, il me le disait de façon informelle, les Ramones ont changé ma vie, etc. Luxe Intérieur, les Cramps, etc. Donc c'est vraiment, il y a un rapport, il y a une connexion pas si aberrante de lié. Je passe, 17 minutes, je passe un peu plus vite sur les autres thématiques. Et dernier passage aussi, et là c'est encore le passionné qui parle, c'est le rapport entre punk et sport. On a évoqué effectivement, je me souviens des journées, on a évoqué les chants de supporters, je me souviens d'interventions où on parlait des Cox par heure ou autres. Et donc là vous aurez reconnu l'hymne de West Ham qui a été l'équipe de foot de Londres, qui a été repris par les Cockney Rejects en version beaucoup, 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 beaucoup plus simplifiée avec moins de paroles. Je trouve qu'y aurait quelque chose à faire aussi sur ces rapports entre punk et sport à travers l'exemple d'un club que je supporte tant bien que mal, qui est donc le Red Star de Saint-Ouen, qui joue ses matchs cette saison à Beauvais pour des raisons techniques. Et pourquoi ce club serait intéressant, c'est par rapport à la composition de son public. Moi, quand je suis allé voir mes premiers matchs à Bauer, j'ai retrouvé pas mal de skinheads, alors plutôt situés politiquement à gauche, contrairement aux vilains supporters du Paris FC qui sont plutôt à droite. Et donc, c'est vraiment des gens dans le public du Red Star que je rencontrais au concert. Ce sont des gens affiliés, des gens engagés politiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que le Red Star, à sa modeste échelle, génère une scène avec des groupes qui vont lui rendre hommage. Donc ça peut être par exemple le groupe 8-6 Crew, donc le bien nommé, référence à la bière, qui sur un de ses albums voilà, de 2010, l'album de son retour, sur sa pochette va mettre les travées de Bauer. C'est une photo très probablement d'avant la tempête de 99, parce que en fait, depuis, la toiture que vous voyez en face, en fait, elle a disparu et les supporters adverses, quand il pleut, ils sont sous l'eau. Alors, le 8-6 Crew est un groupe plutôt orienté ska, mais pas mal de membres du 8-6 Crew sont aussi impliqués dans un groupe punk culte mythique de la scène parisienne, donc les Survetskins, pour ceux qui connaissent. Un autre groupe, Gonna Get Yours, conclure, d'accord. Un autre groupe, Gonna Get Yours, a aussi fait un chant en hommage au Red Star, donc qui s'appelle Echoes of Bauer, donc nom du stade. Il y aurait aussi un lien, je pense, entre le Stade Bauer et le Squad, parce que le Stade Bauer, c'est un des rares stades où, si vous voulez repartir avec un souvenir du Stade Bauer, ben, c'est très simple, vu que le stade tombe complètement en ruine, et ben, vous avez juste qu'à vous baisser, vous pouvez ramasser des petits morceaux de béton armé aux couleurs du Red Star, c'est vraiment très simple. Le stade n'est vraiment pas entretenu, et voilà, y a une sorte de sueur et d'intimité là-dedans. En conclusion, moi, je pense que dans l'investissement que je pourrais apporter à la NR, il y aurait, au-delà de l'histoire punk, il y aurait deux aspects à développer. D'un côté, je me rends bien compte que je vais de plus en plus vers des formes, des modalités de recherche anthropologiques ou sociologiques. Et quelque chose qui m'intéresserait aussi, ce serait vraiment, il y a une place de la littérature qui se fait de plus en plus, avec des choses dont on n'a pas trop parlé. Effectivement, la poésie punk, qu'est-ce que c'est ? Les poèmes, alors je parle pas forcément des poèmes dans les toilettes des squats, mais voilà, un vrai poème punk, qu'est-ce que ça peut dire et comment se sert-on de ces mots punk. Je termine et je vous remercie tous, surtout le pain et le fromage. Merci. Salut.